Papillon à la technique.
Mais qui elle est celle-là ? Qu'est-ce que c'est ?
Place au débat.
Qui vous a donné cet ordre ?
Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Puis juste au-dessus très légèrement de zéro.
Faites mieux, merci.
Salut Charlie, bonsoir très chers auditeurs et auditrices. Alors ce jeudi dans Place au débat, nous allons aborder le sujet de la justice. Nous nous pencherons sur les nombreuses questions de nos auditeurs. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien de la chaîne YouTube Vous avez le droit. Bonsoir.
Sébastien, es-tu avec nous ? Sébastien est avec nous, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait.
Nous sommes ici dans le studio de Radio Alpa, mais également sur les réseaux sociaux où vous pouvez interagir, Charlie ?
Tout à fait, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, à l'arrobase, notamment sur Instagram, à l'arrobase radio-alpa. Sur, j'imagine, s'il en donne l'autorisation, j'imagine sur les réseaux sociaux de Vous avez le droit aussi, peut-être. Et vous avez également, bien sûr, le droit de réagir sur la page Facebook. Pour les personnes qui ont une envie pressante de faire des petites réflexions de Facebook. Voilà, je ne savais pas comment exprimer cette phrase. J'espère que vous m'avez compris, c'était bizarre. Passons à la suite, et passons à la suite en commençant en fait.
Commençons donc, sans
oui,
plus
en fait,
tarder.
Exactement.
Avec la première question.
Tout à fait, la première question, alors ça peut paraître une question un peu bateau, alors je vais vite fait donner le principe de l'émission quand même, parce que sinon on va pas trop comprendre. L'objectif à l'origine, c'était d'inviter un certain nombre de gens autour de la table et qui posent des questions ou qui donnent des affirmations sur la justice et sur le droit en France et auxquelles Sébastien allait répondre et sur lesquelles nous allions débattre. Il se trouve que malheureusement, d'un point de vue physique, il n'y a pas grand monde qui a pu venir, mais ils nous ont transmis leurs questions et donc nous allons les poser pour eux. Et la première question, c'est la question, j'ai envie de dire, la plus
basique.
C'est quoi la justice et comment ça fonctionne, la justice en France ? Et
par rapport au budget qu'on alloue à la justice, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que la justice française est sous-équipée en personnel. Il n'y a pas assez de juges en France par rapport au nombre d'habitants. On a deux fois moins de juges en France qu'en Allemagne, un nombre d'habitants comparable, en moyens matériels. Mais malgré toutes ces insuffisances, la justice fonctionne pas si mal que ça. Par rapport aux standards qu'on attend d'une démocratie. Alors ceci dit, tout n'est pas rose. Hein, tout n'est pas rose. Les juges ont l'habitude de répéter que soit ils jugent bien, mais dans un délai inacceptable, soit ils jugent mal et dans un délai acceptable. Je m'arrête là parce que je fais partie de ces gens qui voient toujours le signe qu'on leur fait pour prendre la parole et assez rarement celui qu'on leur fait pour la leur retirer.
Donc la justice fonctionne plutôt bien. Pourtant, on va constater peut-être que les questions qu'on nous a fait poser, qu'on nous a transmis pour toi aujourd'hui, sont des questions qui partent plutôt du principe qu'en fait, il y a des problèmes vraiment fondamentaux et qu'on se pose la question si la justice est vraiment encore toujours juste, au sens de la justice, j'imagine.
La justice juste, alors, avant même d'entendre la question, alors il faut préciser à nos auditrices, à nos auditeurs, que je ne connais pas les questions. Hein,
Exactement, oui, c'est sur le tas. Hein, on va les découvrir en même temps. On va peut-être même découvrir certaines questions en même temps, puisqu'il y a des questions qu'on a posées à Eglantine que je ne connais pas, et inversement. Donc on va tous découvrir un peu les questions en même temps, et les réponses aussi. Eglantine d'ailleurs, prochaine question, c'est pour toi.
Ok, alors, question d'un auditeur. Y a-t-il une différence à traduire une personnalité importante par rapport à une personne lambda ?
Alors, j'aime croire que non. Alors, tout d'abord, première chose, d'un point de vue théorique. Il ne faut pas oublier que moi, je ne suis qu'un modeste théoricien du droit. Hein, je suis un universitaire, un enseignant chercheur. Donc, j'ai forcément une vision théorique du droit. Hein. Un praticien, une praticienne pourrait peut-être avoir une opinion un petit peu différente. Mais nous sommes tous égaux devant le droit. Alors, ça me rappelle un vieux sketch de Coluche qui disait « mais certains sont plus égaux que d'autres ». Alors, c'est très drôle, mais juridiquement, c'est faux. On a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes devoirs. Et on le voit maintenant, surtout depuis que les juges ont enfin osé s'attaquer au personnel politico classé depuis une trentaine d'années, eh bien, on s'aperçoit que des gens comme François Fillon, comme Nicolas Sarkozy, comme Jérôme Cahuzac ont été poursuivis ou ont été condamnés. Et ça, c'est plutôt rassurant dans une démocratie.
Ok. Bon, bah, voilà, je pense que la réponse est donnée. Normalement, non, normalement, théoriquement.
Théoriquement.
Tout le monde est égal devant le droit, et donc, peu importe son statut social, politique, personnalité publique ou pas, normalement, il ne fait pas différence quand on est traduit en justice.
Oui, ça c'est un conseil que les vieux magistrats donnent toujours aux jeunes magistrats, de ne pas personnaliser les affaires, parce que les magistrats sont d'abord des êtres humains, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs sentiments, mais ils ne doivent pas personnaliser les dossiers, ni parce qu'ils ont de l'empathie avec telle ou telle personne, ni parce qu'ils ont de l'antipathie, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à rendre une mauvaise justice. Heureusement, la justice est là, toute organisée pour éviter l'erreur judiciaire, pour éviter ces facteurs humains. Par exemple, sauf dans les petites affaires, on a le droit à être entendu deux fois par deux juges différents. Hein, c'est ce qu'on appelle, par exemple, dans le droit privé, la cour d'appel. Et donc, d'un point de vue théorique, hein, nous sommes tous égaux. Là, en revanche, où je suis très critique vis-à-vis de la justice, faut aussi être critique quand elle le mérite, c'est au sujet de l'aide judiciaire. L'aide judiciaire en France est scandaleusement basse. Un avocat, une avocate peut prendre 1-2 dossiers par mois en aide judiciaire. L'aide judiciaire, c'est quand la personne est trop pauvre pour pouvoir se payer l'assistance d'un avocat.
Et donc, les avocats, ça coûte très cher. En fait, les frais de justice coûtent hyper cher et c'est une raison aussi pour laquelle les gens vont rarement, plus rarement que prévu devant les cours. Ce qui, on se dit là, du coup, c'est un peu une discrimination de la justice sur les moyens financiers, alors que la justice devrait être accessible à tout le monde. Et donc là, c'est vrai que c'est un problème.
Tout à fait. Et l'exemple que je donne toujours, alors mes chiffres sont peut-être pas très 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 à jour. Il faudrait le vérifier, mais c'est un système de points, c'est un peu compliqué, en fonction des affaires que les avocats doivent défendre. Mais par exemple, une affaire en assise, je pense que l'avocat doit toucher moins de 1000 euros pour toute l'affaire, qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire qu'il va aller assister son client à plusieurs reprises devant le juge d'instruction, il va y avoir des reconstitutions. Et même ses déplacements sont inclus dans cette somme de entre 800 et 1000 euros à la louche. Et en gros, soit l'avocat, alors ça arrive aussi de voir de temps en temps de jeunes avocates prendre 30 ou 40 dossiers dans la matinée, parce que c'est des dossiers qui vont rapporter 50 euros le dossier et qui va leur permettre de vivre. Mais c'est pas du bon boulot, les personnes sont mal défendues. Et la comparaison cruelle que je fais, c'est par rapport à ce qui se passe en Grande-Bretagne. L'équivalent du procès d'assises. Le procès d'assises, c'est pour les infractions les plus graves qu'on appelle les crimes. C'est-à-dire que c'est plus de 10 ans, c'est plus de 15 ans de prison qui ont encouru. Donc c'est du grave. Hein. Eh bien, en France, l'avocat va toucher à peu près, un peu moins de 1000 euros pour toute l'affaire, pour 2 ou 3 ans, comme je disais tout à l'heure. Comparé en Grande-Bretagne, ça doit être entre 15 et 17 000 euros qui lui sont payés par l'État. C'est-à-dire que si un jour j'assassine quelqu'un, je me débrouillerai plutôt pour l'assassiner en Grande-Bretagne, en Allemagne par exemple, pour des raisons différentes. Je serai sans doute beaucoup mieux jugé et beaucoup mieux défendu que je ne serai en France si je n'ai pas les moyens de me défendre.
Bon, d'un côté, est-ce un moindre mal? Enfin, je veux dire, est-ce qu'un crime, entre guillemets, c'est pas rien? Est-ce que, justement, payer le prix fort, si je peux dire ça comme ça, c'est pas justement quelque chose de plus intelligent? Bon, alors, il y a toujours une limite, et ça, c'est une question qu'on reposera tout à l'heure, mais c'est une limite, il y a des limites, hein, genre, par exemple, il y a un débat sur la peine de mort qui est courant dans la société à notre époque, donc, bon, voilà, une fois de plus, quelles sont les limites de la sévérité d'une sanction d'un crime? Mais est-ce que, toute proportion gardée, si on compare actuellement les sanctions d'un crime en France ou dans les autres pays européens, est-ce que la France est plus sévère, mais est-ce que justement c'est pas justifié parce qu'un crime est très grave, justement?
La justice française est une justice qui est plutôt sévère, contrairement à ce qu'on entend souvent. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Au sujet de la peine de mort, il y a quelque chose. Il y a peut-être des bonnes raisons pour être pour la peine de mort, mais s'il y en a une qui n'est pas bonne, en tout cas, c'est au sujet de la dissuasion. Quand on a aboli la peine de mort en France en 1981, il n'y a pas eu plus de crimes avant qu'après, il n'y a pas eu moins de crimes avant qu'après. Ça n'a rien changé au nombre de crimes commis en France.
Donc d'un point de vue de la criminalité, ça ne sert à rien d'une certaine façon.
C'est pas dissuasif, la peine de mort n'est pas dissuasif. Ce qui est dissuasif, c'est l'efficacité, la rapidité, la certitude de la sanction. Si un délinquant est quasiment sûr de se faire prendre et de se faire punir, ça va le dissuader beaucoup plus que d'avoir le risque d'une peine très importante, mais une chance sur 5, ou une chance sur 20, ou une chance sur 50 de se faire piquer.
Oui. Okay. Bon, après, la peine de mort soulève des questions plus morales et éthiques, voire même des questions plus d'un point de vue, je sais pas comment on va dire, des traités dans lesquels on est engagé. Je pense notamment en Europe, on ne peut pas être partie intégrante de l'Union européenne si on n'a pas signé la Convention européenne.
C'est pas l'Union européenne, okay, c'est la Convention européenne des droits de l'homme.
Voilà, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, c'est ça, et qui stipule que la peine de mort doit être abolie. Donc déjà à partir du moment...
Protocole additionnel, c'est un petit peu plus compliqué que ça, je vais faire un tout petit peu de technique juridique.
Allez.
on peut signer la Convention européenne des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, hein. Ça n'a rien à voir, c'est avec le Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe et Union européenne sont deux institutions complètement différentes, avec des membres complètement différents. Il y a évidemment les mêmes certains États qui sont membres de l'un et de l'autre, mais ça n'a rien à voir. Hein. Et donc, la Convention européenne des droits de l'homme, on peut la signer, et il y a ce qu'on appelle une clause cliquet, c'est-à-dire qu'on peut accepter en plus d'abolir la peine de mort dans son pays, et une fois qu'on l'a abolie, on ne peut plus revenir en arrière, sauf à quitter carrément la Convention européenne des droits de l'homme, ce qu'aucun État n'a encore fait jusqu'à présent, et j'espère qu'aucun ne le fera.
Oui, parce que les droits de l'homme, qu'on soit d'accord, c'est quand même à la base de nos droits inaliénables.
Ah, tout à fait.
Qu'on se le dise. Alors, question suivante, question de Yann. Alors, c'est une question qui est, sa formulation est sûrement un peu, peut-être sûrement un peu militante, mais on va essayer d'en retirer les questions plus...
Lila telle qu'elle est, objective.
Ne pensez-vous pas que les droits doivent émaner du peuple et non d'une minorité sélective, afin qu'ils servent les intérêts du peuple premièrement? Et là, on parle des droits dans le sens...
Bien évidemment, 150% d'accord avec Yann.
Parce que c'est la question qu'on se pose en fait, en justice. Alors c'est aussi une question de système politique et de système électoral, mais ça a une répercussion intransigeante sur la justice. C'est comment on peut être sûr que la justice est entre guillemets bien rodée de manière majoritaire, où on serait plus ou moins tous d'accord sur comment fonctionne la justice, si on ne décide pas majoritairement tous de sur quoi elle est basée. Alors il y a la question de, du coup, est-ce que la démocratie représentative est bien représentée? Ça c'est autre chose, mais c'est en lien. Donc d'une certaine façon, est-il possible d'envisager une justice qui satisfasse tout le monde, entre guillemets?
Quelque chose qui satisfait tout le monde, ça n'existe pas. Comme disait ma grand-mère, on n'est pas Louis d'or. Il n'y a que le Louis d'or que tout le monde aime. Donc on n'est pas Louis d'or, on ne peut pas faire l'unanimité, il faut organiser un système politique qui permet d'émerger des solutions qui satisfassent à la fois les règles de base, par exemple les droits de l'homme, et la volonté populaire de la majorité, sachant que la majorité, ce n'est pas le fait d'écraser la minorité, c'est au contraire la respecter. Donc, pour revenir, j'ai bien fait de te demander de lire la
C'est une chose qu'on entend un peu trop rarement, peut-être, ça, cette phrase sur la minorité et la majorité.
Ben écoute, moi, j'ai été élevé dans la forêt des livres. Je n'ai pas été élevé dans la forêt des arbres. Je ne parle pas la langue de bois.
Quand oh, c'est beau.
J'ai quelque chose à dire, je le dis. J'ai la chance d'être universitaire et d'avoir une énorme liberté de parole. Et je ne me prive pas. De critiquer quand il y a besoin de critiquer une institution. Je le fais avec mes armes d'enseignant-chercheur, bien évidemment, mais je le fais justement et parfois sévèrement.
Eh bien, il faut. Alors, pour faire suite à la question d'Yann, une petite dernière question avant la première virgule musicale.
Une question donc de Christine. Pourquoi une victime d'agression / de vol, slash de viol slash d'effraction.
Beaucoup trop de slash.
Oui. Bah, doit-elle montrer des preuves concrètes ?
Parce que nous bénéficions tous et toutes de la présomption d'innocence. Alors c'est quelque chose qui est insupportable pour les victimes, de devoir prouver qu'elles ont été victimes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit pénal, il est là d'abord pour s'occuper des auteurs d'infractions et des autrices d'infractions. Et quand on est accusé d'une infraction, bah en droit, c'est un petit peu comme en science. C'est impossible de démontrer l'inexistence de quelque chose. Hein, il n'y a pas de démarche, c'est pas une démarche scientifique de démontrer l'inexistence de ceci, l'inexistence de cela. On va démontrer l'existence de quelque chose en science. Et bien, en droit, c'est pareil. On va démontrer l'existence de l'infraction. Et si, assez souvent, les victimes ne comprennent pas que le juge refuse de condamner, et en fait, il ne leur donne pas tort. Il ne leur dit pas vous n'avez pas été victime d'eux. Il dit simplement, mais ça, la victime a beaucoup de mal à le comprendre, il dit simplement vous n'êtes pas arrivé à me convaincre que vous avez été victime. Parce que le droit, c'est un petit peu comme l'humour. Je dis souvent ça avec humour. Le droit, c'est un petit peu comme l'amour. Il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Et ben c'est pareil, il n'y a pas de droit, il n'y a que des preuves de droit.
Et donc, les parallèles, ce soir, sont de plus en plus beaux. Alors, pour rebondir juste avant la pause musicale, parce que je vais rebondir tout de suite sur ça, sur la question de la présomption d'innocence, donc, entre guillemets, on peut remarquer assez aisément que s'il n'y a pas, entre guillemets, de justice forcément évidente dans les tribunaux, c'est-à-dire qu'un accusé ne va pas être condamné, d'un côté on peut se dire bah, c'est normal, et d'un autre côté on se dit bah ouais, mais toutes ces victimes qui... D'ailleurs, il paraît que c'est très difficile de prouver la plupart du temps, par exemple, les abjections du genre une agression sexuelle, un viol, tout ça, ce genre de choses, et souvent, ouais. Il paraît très difficile à prouver.
Hélas.
Mais alors, du coup, on se dit, d'une certaine façon, c'est le fonctionnement de la justice, et heureusement qu'elle fonctionne comme ça, et d'un autre côté, on se dit, bah d'accord, mais comment on fait pour que les victimes obtiennent réparation ? Il y a un côté injuste à la chose. Et donc,
exactement.
On voit, alors déjà, comment pallier le problème, entre guillemets, ouais. Et d'une autre façon, on voit que, de fait, les condamnations sont plutôt rares par rapport au nombre de cas existants.
Je ne connais pas les victimes.
Alors, j'ai pas le nombre exact non plus, mais j'avais vu passer que c'était quand même peu. Très peu. Il me semble qu'il y a sur 100 accusations, il me semble qu'il y a entre 1 et 2% de condamnations, alors que sur les 100 accusations, il y en a peut-être plus de 80% qui sont fondées, quoi. Qui seraient fondées. Donc c'est. Quand je dis fondées, il ne faut pas le prendre mal.
Tu as une source précise, parce que en tant qu'universitaire,
je te chercherai la source pendant la virgule musicale, on aura un petit peu de temps. Là, tout de suite, je ne vais pas te la donner, mais je te redirai ça tout à l'heure. Mais du coup,
j'explique à nos auditeurs et à nos auditrices pourquoi je fais ça. C'est que mon côté universitaire, moi j'ai besoin de bases solides pour réfléchir, pour répondre. Et j'avoue que la criminalité sexuelle n'est pas une criminalité qui m'a beaucoup intéressé, parce que j'ai fait mes études, je me suis spécialisé assez tôt en droit pénal, j'ai fait ma thèse en droit pénal, et puis le hasard de l'existence a fait que j'ai fait toute ma carrière sur autre chose que le droit pénal. Mais ce qui m'intéressait en droit pénal, c'était d'abord les crimes de sang, bien évidemment, ça c'est un peu le miroir aux alouettes qui attire les étudiantes et les étudiants dans les facultés de droit en première année. Et puis je me suis intéressé rapidement au droit pénal des affaires, au droit pénal économique, ce qui fait que la criminalité sexuelle, je connais relativement peu, donc j'ai aucune idée de si les proportions dont tu fais part sont exactes ou pas.
Tiens, je disais après la pause musicale, mais en fait je les ai en face de moi. Le service de statistiques du ministère de la Justice.
D'accord.
Voilà. Donc c'est la source. Le taux de condamnation pour viol et agression sexuelle ne dépassait pas 1% en 2020.
Ah là là, c'est effrayant.
Voilà.
C'est effrayant.
Donc voilà, bon, comme ça t'as la source. Mais du coup, il s'opère souvent une justice, entre guillemets, j'ai envie de dire sociale, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la société en général, où maintenant, limite, accusé égale condamné socialement, et là, derrière, la vie est un enfer. Alors, d'un côté, on peut comprendre, puisque les tribunaux n'arrivent pas forcément à condamner dans la bonne proportion ce qui est vraiment, et d'un autre
qu'est-ce
côté, on se dit...
Excuse-moi de t'interrompre, Charlie, qu'est-ce que c'est que la bonne proportion ?
Quand je dis la bonne proportion, c'est dans la proportion des cas qui ont, de la totalité, ou quasi-totalité des cas qui ont effectivement eu lieu, et qui, s'ils pouvaient être prouvés, mèneraient à une condamnation, on va dire. Ce fameux 1%. Donc d'un côté, on se dit, oui, on trouve ça tellement inadmissible qu'entre guillemets, il faut faire quelque chose, et d'un autre côté... La justice se fait dans les tribunaux, pas sur les réseaux sociaux. Donc il y a un vrai conflit entre les deux. Comment on règle ce problème de ces cas en justice de viol et d'agression face à la société qui voudrait qu'il y ait quelque chose, quoi.
C'est extrêmement difficile à gérer. D'ailleurs, c'est un peu l'ADN de ma chaîne YouTube. Hein. C'est en partie pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je ne pensais pas qu'elle aurait en moins de 3 ans le succès qu'elle a maintenant. Parce que le droit, c'est quelque chose que l'on ignore, dont souvent, que soit on le méprise, soit on en a peur. Hein. Et c'est pour le vulgariser avec des mots de tous les jours que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et c'est pourquoi, quand il y a par exemple des accusations de viol concernant des YouTubeurs, eh bien à chaque fois je fais une vidéo pour essayer de contextualiser juridiquement. Sans porter de jugement, bien évidemment, sur les affaires. Il y a 3 ans, l'affaire Experiment Boy, les affaires Pirorca, l'affaire Dirty Biology, Norman, compagnie.
Ok, ouais, donc c'est un vrai problème de fond, ces histoires-là, de savoir comment la justice peut, à la fois selon son fonctionnement et à la fois selon ce qui devrait être fait, comment arriver à ses fins. C'est un vrai sujet. Bon, on n'aura sûrement pas la réponse ce soir, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel il faudra, j'imagine, dans les prochaines années, essayer de trouver des pistes de réponse.
Si toi et moi avions la réponse, on aurait déjà le prix Nobel.
Il y a un prix Nobel de justice ?
Non.
Ce serait étrange. Bon, allez, on revient dans 3 minutes. On va faire une petite virgule musicale. Esteban y Diego, El Baño. A tout de suite sur Radio Alpa.
A mí se me paró el corazón y me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo. Discúlpame, mi amor, por esta invitación.
Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoce, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Un día más así yo no la aguanto.
Vámonos a la luna, vámonos pa'l fin. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Quiere algo serio, quiere ver mañana. Si somos novios o somos pa' nada. Oh, oh, oh. Si somos novios o somos pa' nada. Tranquila, hay que ver mañana. Te vuelvo a ver, se me vuelve a parar la respiración por verte bailar.
Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerdes la boca. Solo quiero verte bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota.
Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así ya no lo aguanto.
Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. ¿Quieres algo serio? Hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana.
Oh, 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 oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana.
Imagina que la vida va veloz, igual que tu ex, que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de 2. Te calientas sola si te pones ciclos.
Tranquilo,
solo poco a poco me conoce. Por ahora quiero verte en todas las poses. Si me dejas el agua hasta dentro del closet. Entre que estás caliente y todavía no son las 12. Yeah.
Vacila que la vida es solo una. A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna. Me llama después de la una. Santa de día de habla cuando cae la luna.
Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así ya no lo aguanto.
Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. ¿Quieres algo serio? Hay que ver mañana. Si somos novios o somos panas.
Vous êtes bien de retour sur les ondes de Radio Alpa dans Place au débat qui aujourd'hui s'intéresse à la justice dans sa globalité.
Et du système judiciaire en France. Vous pouvez agir et réagir sur les réseaux sociaux de la chaîne YouTube Vous avez le droit, car nous sommes toujours avec Sébastien de la chaîne YouTube Vous avez le droit. Oui, apparemment.
Oui, oui, nous sommes toujours ensemble.
Vous pouvez également agir et interagir sur les réseaux sociaux de Radio Alpa, donc à l'arrobase radio-alpa pour Instagram ou la page Facebook de Radio Alpa, et nous continuons cette petite émission. Alors, vous aurez peut-être reconnu le remix du générique Made in Vous avez le droit.
C'est spécial pour la vidéo d'aujourd'hui.
Spécial pour la vidéo d'aujourd'hui qui traitait du CBD, donc c'est peut-être pour ça que ça a été remixé un peu en reggae. Il y a beaucoup d'humour sur cette chaîne, en fait.
Voilà, bah, l'humour, c'est essentiel. C'est un petit peu comme dans la chanson de Mary Poppins, c'est comme le sucre qui aide la médecine à couler. Et en fait, c'est la vidéo d'aujourd'hui, on a choisi le sujet, on a commencé à l'écrire avec ma communauté, parce que depuis 5 mois, depuis début janvier, j'ai lancé ma chaîne Twitch, et 2 fois par semaine, nous nous retrouvons, et j'avais proposé au mois de mai, lors d'un des nombreux jours fériés du mois de mai, de nous retrouver un matin en plus, et d'écrire tous ensemble une vidéo. Alors on a choisi le sujet, et est tombé le sujet sur le CBD, et on a commencé à l'écrire. Ce qui a beaucoup amusé la communauté, c'était de voir comment ça s'écrivait, avec quelles sont les contraintes pour l'écrire. Et puis après, une fois qu'on a écrit le petit chapeau qui est avant mon générique, je l'ai lu avec l'air que j'utilise quand je tourne mes vidéos, où je fais quelque chose de légèrement caricatural de la façon dont je parle d'habitude. Et 2 jours après, il y a un membre qui m'a envoyé ça, il me dit « si tu veux l'utiliser, ce sera avec plaisir ». Alors évidemment, j'ai immédiatement sauté sur le canton pour faire le gag avec Tricotine qui met cette musique-là à la place de la musique habituelle et qui fait un jeu de mots lamentable comme d'habitude.
Alors pour le petit contexte, Tricotine, c'est le chat de la chaîne Vous avez le droit, qui a un humour finalement très...
C'est la coproductrice et coactrice de la chaîne Vous avez le droit.
Alors continuons notre petite émission, donc qui sont des questions-réponses sur le droit et sur la justice en France que nous posent les auditeurs et auditrices. Nouvelle question, les dealers de drogue sont dangereux apparemment pour la... Alors une fois de plus, je lis texto sensus qui a écrit.
Ouais,
hein. Les dealers de drogue sont dangereux apparemment pour l'économie de l'État et non les agresseurs sexuels. Pour preuve, beaucoup de jurisprudence condamne plus difficilement et plus durement des dealers de drogue que les agresseurs sexuels ou les violents. Qu'est-ce qu'on répond à ça ?
Là non plus, j'ai pas les chiffres. Alors, au sujet de la lutte contre le trafic de drogue, j'avoue que je suis assez gêné là-dessus, parce que surtout par la position de la France par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. On est, je crois, le pays le plus sévère de l'Union européenne, au moins des membres historiques de l'Union européenne, parce que j'ai pas regardé les chiffres dans les pays, les nouveaux entrants depuis un temps. Mais on est à la fois un des pays les plus sévères et le pays d'Europe où on consomme le plus. Donc j'ai tendance à penser que la politique française est pas bonne. Alors ça, c'est la première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse,
Le droit, c'est un peu une boîte à outils. Et quand dans une boîte à outils, on n'a qu'un seul outil, et que l'outil en question, c'est un marteau, ben on va finir par voir tous les problèmes qui se posent à nous sous forme de clous. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec cette image rigolote? Ce que je veux dire, c'est que confier la gestion du problème de la drogue au ministère de l'Intérieur, ben on va avoir une réponse répressive. On va avoir de la sanction. Il y a d'autres pays, par exemple les Pays-Bas, ils ont confié la gestion des problèmes de stup, non pas au ministère de l'Intérieur, non pas au ministère de la Justice, mais au ministère de la Santé. Ils considèrent que c'est d'abord un problème de santé publique. Eh bien, la réponse va être différente, ça va être une réponse santé publique. Alors, c'est peut-être pas la réponse à laquelle les auditeurs...
On va prendre deux exemples. Il y a un homme récemment qui a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour le viol d'une fillette de 3 ans. Et le même jour, dans un autre tribunal, pour usage de la drogue sur la voie publique et trafic de drogue, il y a une autre personne qui a été condamnée 8 à 10 ans de prison, ce qui est donc une peine plus lourde. Comment on peut se dire qu'on peut expliquer ça alors que, sensiblement, si on pose la question à quelqu'un dans la rue, on sera plus ou moins tous d'accord pour dire qu'un viol est beaucoup plus grave que 30 oui. grammes de cannabis.
Alors, pour ma part, moi je ne me l'explique pas non plus, hein, pas plus que vous, pas plus que nos auditrices et pas plus que nos auditeurs. Mais pris comme ça, c'est injustifiable. Pris comme ça, c'est inexplicable. Mais moi, je vais m'arrêter là parce que je ne connais pas le dossier, je ne connais pas l'affaire. Si j'avais un accès au dossier... donc la décision et aux motivations et circonstances de fait, là je pourrais répondre. Est-ce qu'on va comparer? Oui, mais monsieur Intel, par exemple, qui toute sa vie a été raisonnable, a toujours mangé raisonnablement, n'a jamais fumé, n'a jamais bu, il est mort à 65 ans, est-ce que c'est juste alors que telle autre personne qui a abusé de tout ce qu'elle pouvait abuser est toujours vivante à 85 ans? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? C'est pas comme ça qu'il faut poser la question, je pense.
Oui, c'est au cas par cas, il faut étudier plus précisément les dossiers et comparer
tout à fait,
aussi.
Est-ce que je pourrais répondre là aussi, je vais répondre en universitaire, c'est-à-dire que je vais vous dire que les condamnations ont été vraisemblablement prises en suivant la procédure de la procédure pénale, c'est quand même la moindre des choses, et que la peine eh bien correspond à la fourchette de peine qui est prévue par le code pénal. Je ne peux pas dire davantage. C'est vrai que humainement, c'est très choquant d'associer ces deux condamnations. Quand rien n'explique qu'on les associe.
Alors, j'en profite, vu qu'on est sur le sujet des drogues, j'en profite très vite fait, parce qu'on s'était posé la question une fois dans une émission, il y a plusieurs mois, mais on n'avait pas su y répondre. Soit, entre guillemets, j'ai envie de dire, soit la drogue est illégale et donc elle est pénalement réprimée et punie, ce qui est le cas actuellement en France, soit la drogue est légale et est absolument pas sous le contrôle de l'État, et dans ce cas-là, entre guillemets, tout le monde fait ce qu'il veut, soit elle est légale, mais l'État a un contrôle dessus. Par exemple, c'est lui qui fournit, je sais qu'il y a certains pays où c'est le cas, par exemple.
Tout à fait.
Et il y a certains pays, et là on avait une interrogation là-dessus, qui ne rendent pas la drogue légale ou illégale, mais qui simplement dépénalisent la drogue. Mais dans ce cas-là, si la drogue est entre guillemets interdite sur le papier, mais que si on prend quelqu'un à en consommer, elle n'est pas punie, entre guillemets, à quoi ça sert?
Alors,
la dépénalisation a-t-elle un intérêt, en fait?
Est-ce que le fait que assassiner quelqu'un à coups de hache, c'est interdit? Est-ce que c'est pour ça que personne n'assassine personne à coups de hache? C'est pas le droit, c'est comme je disais en début d'émission, la façon de dire non à certains comportements, et surtout le droit pénal, en disant de façon assez ferme, assez musclée, assez brutale, non à certains comportements. Mais je me perds un peu dans ma démonstration, mais alors il faut aussi revenir, oui c'est ça ce que je voulais dire, il faut revenir également à dépénaliser la consommation. Hein, parce que dans les pays où la consommation est dépénalisée, c'est pas pour ça que le commerce est dépénalisé. Ce sont deux choses différentes. Il y a des pays qui sont relativement sévères vis-à-vis du commerce, tout en dépénalisant la consommation. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la seconde, c'est que faut faire aussi attention à la prohibition. Ce qui a contribué très largement à construire la mafia aux États-Unis, donc elle existait déjà au XIXe siècle, bien sûr, mais elle s'est construite pendant les 11 ou 12 ans ou 13 ans qu'a duré la prohibition. Hein, je ne me souviens plus des dates, mais ça doit être début des années 20, milieu des années 30, hein, la période d'Eliot Ness. Bah, oui, pendant ces 12 ou 13 ans, la mafia américaine s'est construite. Et un siècle plus tard, pratiquement, ils n'en sont toujours pas débarrassés, parce que ils luttaient contre quelque chose qu'il est commun de consommer, à savoir de l'alcool. Donc il faut faire attention, la prohibition, c'est pas toujours la meilleure solution.
Alors, on va faire une petite précision de définition, parce qu'on parle de beaucoup de choses différentes depuis le début. C'est quoi la différence entre un délit et un crime ?
La peine. Hein, c'est classique, il y a trois sortes d'infractions, de la moins grave à la plus grave. Il y a la contravention, le délit et le crime. La contravention, il y a cinq classes de contravention, si je me souviens bien. Elle va être définie par la peine maximum encourue. Et les contraventions de cinquième classe, il faudra que je vérifie parce que j'ai une très mauvaise mémoire à cause des drogues que je consomme de façon parfaitement légale, hein, puisque j'ai la malchance, hein, nos connaissances s'est rencontrés il y a quelques mois, hein, tu sais que je me déplace difficilement, que je marche avec une béquille et que je suis parfois en fauteuil roulant, et pour lutter contre les souffrances, je suis sous morphine. Donc de temps en temps, j'ai tendance à oublier des éléments. Donc, il y a donc trois catégories d'infractions, la moins grave à la plus grave, la contravention. Alors, je me souviens plus, sur la contravention, il y a toujours une petite peine de prison, ou s'il y en a plus, je me souviens plus, parce qu'il avait été question de supprimer ça. Mais le crime, c'est au contraire l'infraction la plus grave, plus de 10 ans, mais en pratique plus de 15 ans de prison. Et entre les deux, c'est le délit. Et selon qu'on commet un crime, un délit ou une contravention, on va aller devant un juge ou un autre. Pour le crime, on va aller en cour d'assises. Pour le délit, on va aller devant le tribunal correctionnel. Et pour la contravention, on va aller devant le tribunal de police. La cour d'assises, qui peut être remplacée également par la cour criminelle départementale, ce qui est une création récente, qui n'est composée que de magistrats, alors que la cour d'assises, elle, est composée de 6 jurés et de 3 magistrats professionnels.
Alors j'ai vu, là tu te posais la question, donc je viens de me renseigner, il n'y a plus de passage immédiat devant de prison ou de passage immédiat devant une cour pour les contraventions. Il faut avoir récidivé deux ou trois fois la cinquième classe pour...
Oui, pour risquer de la tôle, d'accord, okay, c'est ça, oui. Je m'en souvenais plus parce que dans la mesure où je me suis, pendant 25 ans, je me suis occupé d'autre chose, je suis en train de revenir vers le droit pénal, mais il y a des choses qui sont pas devenues des automatismes, parce que j'avais des automatismes quand j'ai fait mes études, c'est pour ça. C'est
normal. Sans vouloir être le moins désobligeant du monde, ça commence à dater.
Mais exactement, mais il n'y a pas de quoi. C'est pas désobligeant de dire que les gens qui connaissent ma chaîne se rendent bien compte que j'ai plus 20 ans.
Ok, alors on va passer à la question suivante, maintenant qu'on a testé celle-ci, Églantine.
Revient-il à l'État de décider ce qui est juste ?
Waouh, la question là, elle est lourde. Là.
Ça, c'est une question pour un philosophe. C'est une question pour mon copain Monsieur Phi, qui est Manceau, lui aussi, donc à qui vous pourriez sans doute poser la question. Alors, on a un projet avec Monsieur Phi, hein, la chaîne Monsieur Phi, l'excellente chaîne Monsieur Phi. Si j'avais un prof comme ça, peut-être que j'aurais été meilleur en philo quand j'ai fait mes études. Et on a un projet avec Monsieur Phi, projet qui a pris du retard, porte justement sur ce sujet-là. Le droit est-il juste ? Alors on a commencé à l'écrire, et puis on devait finir de l'écrire et la tourner au premier semestre. Et ça fait 6 mois que les obligations professionnelles, que la production d'une vidéo par semaine et que toutes ces sortes de choses, et le lancement de la chaîne Twitch m'ont empêché de faire. Donc là, je suis en train de contourner, parce que je ne sais pas répondre, c'est pas une question qui s'adresse à un juriste. Est-ce que le droit est juste ? J'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que le droit...
On ira demander à Monsieur Phi.
Ouais, ouais, je pense qu'il serait tellement mieux placé que moi pour répondre à cette superbe question.
Bon, allez, on fait une dernière petite virgule musicale et on se retrouvera pour une toute dernière question après, puisque le temps tourne, et on conclura cette émission. Allez, à tout de suite.
On écoute,
on
quoi
écoute Guillaume Muller qui va nous chanter L'Artiste.
Sa personne comme un roi qu'on couronne. Lui, il se pavane, l'allure d'un gentleman. Dans son costume queue de pie, tandis que la foule l'épie. Allez, viens, la vie c'est mieux que le cinéma. Au smoking, je préfère l'anonymat. Tapis rouge, des rêves brisés. Prisonnier de ses rôles, de ses films sans parole. À l'aise mais l'âme en fuite, le succès au zénith. L'artiste tombe de haut, quand comme sur un bateau. Sans cap, sans capitaine, sa gloire est bientôt vaine. Allez, viens, la vie c'est mieux que le cinéma. Au smoking, je préfère l'anonymat. Le secret de mes envies attisées, loin des tapis rouges. Des rêves brisés. Encore un soir de solitude, elle m'empoisonne cette habitude. On dirait une vieille qui veille, je ne trouve plus le sommeil. Peu m'importe la vie d'artiste, moi je la demande moins égoïste. Hollywood l'enterre, elle, elle le déterre. De destins qui se croisent comme des ombres chinoises. L'amour en vedette qui fait des claquettes. Loin du monde des paillettes, il a le cœur en fête. Allez, viens, la vie c'est mieux que le cinéma. Au smoking, je préfère. Le secret de mes envies attisées, loin des tapis rouges, des rêves brisés. Le secret de mes envies attisées, loin des tapis rouges, des rêves brisés.
Vous êtes à nouveau de retour sur Radio Alpa, dans Place au débat, qui s'intéresse à la justice dans sa globalité et tout ce qui touche à la justice, du coup, c'est
exactement
pareil.
Vous pouvez toujours agir, réagir et interagir sur les réseaux sociaux, donc... Pardon, on a un petit problème technique.
Ah, lequel?
Voilà. Problème technique réglé, excusez-nous, ça peut arriver, c'est les aléas du direct.
On est
avec Sébastien de la chaîne Vous avez le droit, voilà. Et donc je disais, vous pouvez agir et réagir sur les réseaux sociaux de Radio Alpa, donc Radio Alpa sur Instagram, sur Facebook, mais également sur les réseaux sociaux de Vous avez le droit, et nous poursuivons cette émission pour la dernière partie. Toujours toujours avec ce magnifique générique remix de la dernière vidéo de Vous avez le droit sur le CBD. Nous posons la dernière question de l'émission. Églantine, je t'en prie.
Et donc cette question, c'est une question qui est personnelle, que je pose personnellement. Et c'est, est-ce que la justice est toujours égale devant la loi ? Ce que j'entends par là, c'est... Donc on sait que théoriquement, la justice est censée être égale devant la loi parce qu'elle est impartiale et que la loi est en parallèle,
En quelque sorte, est-ce que l'application de la loi est égale à la loi ? En gros, comment on fait pour gérer l'application des lois par rapport aux lois telles qu'elles sont écrites ? Est-ce que c'est une question de jurisprudence ? D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait redéfinir le mot jurisprudence ? Voilà, donc en gros, la question, Sébastien, on t'écoute.
Oui, effectivement, oui, ça pose plusieurs problèmes délicats et tout à fait passionnants qui sont imbriqués. Alors tout d'abord, la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice. Il faut que j'aille un petit peu plus loin dans ma définition. C'est l'ensemble des décisions de justice, mais on dit qu'il y a jurisprudence quand les juges ont pris l'habitude de tous juger un même problème de la même façon. Et ça se fait avec le temps. Il faut quelques années, parfois quelques dizaines d'années, pour que la jurisprudence se forme. Et plus la décision est prise par un juge important, plus elle va être importante dans la formation de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'un tribunal judiciaire qui prend une décision, sa décision, en règle générale, ça va être une décision d'espèce, ce qu'on appelle une décision d'espèce, c'est-à-dire une décision qui est là pour trancher une affaire dans un cas précis. Déjà, quand on arrive devant la cour d'appel, l'affaire s'est en quelque sorte déjà décantée. Elle devient plus juridique. Et puis même chose, quand on va devant la Cour de cassation, à plus forte raison, là on a vraiment décompté l'affaire, et la décision de la Cour de cassation est plus importante. Et à l'intérieur des décisions de la Cour de cassation, il va y avoir des décisions importantes pour la formation de la jurisprudence et d'autres qui ne le sont pas. Et ça, c'est un truc que j'enseigne à mes étudiantes et à mes étudiants, en se disant, regardez bien comment la décision de la Cour de cassation est rédigée. Par exemple...
D'ailleurs si, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble utile de rappeler que la Cour de cassation n'a pas vocation à revenir sur le fond du jugement, mais de savoir si le jugement a été pris sur des bases qui respectent la loi.
Tout à fait.
Donc c'est une cour de forme davantage qu'une cour de fond.
Tout à fait.
Donc les personnes qui demandent à la Cour de cassation, entre guillemets, de revenir sur la décision, c'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle de la Cour d'appel.
C'est même pas la peine d'y penser. Alors, je reviens à ton intervention immédiatement après avoir terminé mon exemple concernant la jurisprudence. Par exemple, la Cour de cassation va écrire la Cour d'appel a pu. Alors, on appelle ça en vocabulaire technique un a pu. La Cour d'appel a pu. Ça veut dire que juridiquement, ils ont pas tort, mais c'est faut pas y attacher plus d'importance que ça pour la formation de la jurisprudence. Et de temps en temps, la Cour de cassation enfonce le clou en disant la Cour d'appel a un bon droit. Et donc, ça, c'est un à bon droit. Ça veut dire que la Cour de cassation considère que ce qu'elle est en train d'écrire est plus important. Alors ça, c'est donc la première partie de la réponse à cette excellente question, qui est une question un peu comme les poupées gigognes. Et la seconde réponse qu'on peut apporter, c'est que pour éviter, tout est organisé, ce qui ne veut pas dire que la justice ne fait pas d'erreurs. Elle en fait des erreurs, et ça peut être très grave de faire des erreurs, surtout quand il s'agit d'affaires pénales, et d'affaires pénales importantes, mais tout est organisé pour qu'elle en fasse le moins possible. C'est pour ça qu'on a, sauf exception, le droit à ce que notre affaire soit examinée deux fois par deux juges différents, d'abord les premiers juges, puis la cour d'appel, sauf pour les toutes petites affaires. Et puis la Cour de cassation est là, elle n'est pas là pour rejuger l'affaire une troisième fois, elle est là pour juger non pas l'affaire, mais pour juger le procès, pour savoir si la Cour d'appel a appliqué la bonne loi.
Donc en quelque sorte, comment on fait le franchissement entre les lois et l'application des lois, ça tient en deux choses. D'une part, la jurisprudence, ouais. Et d'autre part, en fait, la Cour de cassation qui a justement vocation à fabriquer la jurisprudence et à dire, effectivement, là, la loi a bien été appliquée telle qu'elle.
Voilà, c'est cela. Par exemple, imaginons que, je vole un nounours en guimauve, ça c'est un gag récurrent dans mes vidéos, c'est pour ça que je prends toujours l'exemple, parce qu'il fait toujours sourire. Je vole un nounours en guimauve, et on condamne à 6 mois de prison avec sursis. Je vais en appel, la cour d'appel me dit, ben, 6 mois de prison ferme. Parce que je ne savais pas faire appel, 6 mois de prison ferme. Si la procédure a été respectée, si le texte qui a été appliqué pour me condamner est celui qui devait être appliqué, c'est même pas la peine que j'aille pleurer devant la cour de cassation en disant « Ouais, ils ont été méchants, ils m'ont mis 6 mois ferme ». La cour de cassation répondra simplement que bah, la peine est comprise dans l'échelle des peines qui est prévue par le code pénal. Okay, et ouais. Elle ne rentrera pas dans ce qu'a dit la cour de ce qu'a motivé la cour d'appel. Il suffit que, parce que j'ai quand même été jugé déjà 2 fois par 2 juges différents, on ne va pas me rejuger une 3e fois, et donc ce n'est pas la peine que je fasse un pourvoi sur un fondement juridique, sur un raisonnement comme celui, ils ont été trop sévères avec moi.
D'accord, ok. Eh bien, merci pour les réponses à toutes ces questions. Malheureusement, on n'a pas pu tout faire. Vous vous en serez bien rendu compte pour les personnes qui en ont posé des questions. On ne peut pas tout faire en une heure, on ne peut pas tout développer. Mais merci pour vos questions. On répondra aux autres ultérieurement, sûrement. Peut-être qu'on refera un truc avec Sébastien dans un avenir proche. À voir.
Avec plaisir.
Voilà. Est-ce que Sébastien, avant de nous quitter, tu veux ajouter un dernier mot, un petit mot de la fin ?
Bien, simplement essayer de vous renseigner sur ce qu'est le droit, sur ce qu'est la justice, et la façon la plus intéressante et parfois traumatisante de le faire, c'est de rentrer dans un palais de justice, d'assister à une audience d'un tribunal correctionnel, d'assister à un procès d'assises, et vous en sortirez transformé. Et à plus forte raison, ceux et celles qui sont désignés par le tirage au sort en tant que jurés d'assises, ben, ils en sortent d'autant plus transformés, et ça permet d'abord de découvrir comment marche la justice avec son apparat, avec les costumes judiciaires et avec ses rites et aussi avec tout le professionnalisme des avocats et des magistrats, des magistrates et des avocates qui sont là pour essayer de faire en sorte que nous soyons tous citoyens et citoyennes jugés le mieux possible.
Et nous finirons sur une phrase que tu nous avais dit au rencontre de l'esprit critique, parce que ça a beaucoup à voir la justice avec la démocratie. La démocratie, c'est comme une bicyclette. Quand on arrête de pédaler, ça tombe. Je trouve cette phrase exceptionnelle et donc je me permets de la ressortir.
Je suis tout à fait d'accord.
Merci
avec toi.
Sébastien pour le temps pris avec nous à l'antenne. On se dit à une prochaine fois.
En effet, à une prochaine fois.
Et en ce qui nous concerne,
gardez la pêche.
Et à
plus.
La semaine prochaine.
On touche pas, camarade.
Quelle indignité.
Églantine Lévesque à l'animation.
Nous sommes sur le service public.
Charlie Tétillon à la technique.
Mais qui elle est celle-là ? Qu'est-ce que c'est ?
Place au débat.
Qui vous a donné cet ordre ?
Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Puis, juste au-dessus, très légèrement de zéro. Faites mieux.